Décryptualité, semaine 1 de l'année 2022. Salut Manu.
Salut Luc, et bonne année.
Oui, bonne année. C'est ça. Alors, sommaire de la semaine, un petit sommaire, c'est la rentrée. La Tribune, coup d'arrêt pour le Health Data Hub, la plateforme controversée qui centralise les données de santé des Français. Un article de Sylvain Roland.
C'est toujours rigolo de parler de ce truc-là, parce que c'est vraiment la France qui a une idée intéressante de centraliser les données de santé, pourquoi pas, mettre ça sur de la grosse informatique et essayer de faire tourner des applications à droite à gauche, des algorithmes intelligents et d'essayer d'en retirer des données hein, pour mieux travailler. Sauf que on pense, il semblerait dans les hautes sphères, qu'il n'y a que les infrastructures américaines qui peuvent répondre aux besoins de volume, parce que c'est très gros.
Et donc, ouais, c'était le gros sujet depuis la rentrée de septembre, on parle que de ça.
Et ça pue, parce qu'on a bypassé les structures européennes et françaises, et les Européens et Français qui font beaucoup de logiciels libres ne sont pas contents de cela. Et là, semblerait, finalement, la décision est tombée. Non, on ne fera pas vraiment cela tel que c'était demandé. Les autorisations n'ont pas été accordées, donc le gouvernement retire sa demande d'utilisation de la plateforme.
Mais ils ont pas retiré avant qu'on leur dise non, non ?
Peut-être qu'on leur a dit non en douce, et puis qu'ils ont fait « Bon, d'accord, c'est pas toi qui veux pas, c'est moi. »
Ils se sont dit que ça passerait pas.
Voilà. Donc, et puis surtout, c'est que ça éviterait d'avoir un sujet un peu tout pourri pendant une année d'élection. On n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire, les données de santé, c'est un petit peu fort et important comme chose. On n'a pas envie que ça fuite ou qu'il y ait même la moindre idée d'un risque de ce côté-là.
Ouais, surtout, par les temps qui courent, la question de la santé est vraiment sensible.
N'est-ce pas ?
Next Impact, GNU-PG a enfin un modèle économique durable et rentable. Un article de la rédaction.
Alors, c'est un petit truc, hein, c'est une brève, mais c'est toujours sympa parce que GNU-PG, c'est une solution de chiffrement qui permet vraiment de garantir que ce qu'on chiffre avec ou ce qu'on déchiffre avec va être très sécurisé. Mais bah, c'est une application libre qui existe depuis des années et qui n'avait pas vraiment de financement solide, ça dépendait beaucoup de dons. Donc là, il semblerait qu'il y a des contrats qui sont tombés, peut-être à la suite des différentes failles qu'on a pu voir passer Log4j il n'y a pas longtemps, mais il y a des entreprises, il y a des institutions, je n'ai pas les détails, mais qui ont mis de l'argent sur la table, et donc ils ont désactivé tout simplement tous les dons récurrents qui étaient en place en disant « bah non, vous n'avez plus besoin de les rediriger vers nous, vous pouvez les donner à d'autres projets libres, tant mieux pour eux, ce sera très bien parce que nous, on a ce qu'il faut. »
ZDNet France, messagerie instantanée, Olvid passe en open source, un article de Louis Adam.
Alors, je sais pas trop ce que c'est que cette application, mais la messagerie, on en a pas mal, on en utilise beaucoup. Donc là, Olvid, c'est une application qui devient libre, publiée sur GitHub, pourquoi pas. Et puis, l'article parle un petit peu des bonnes raisons de faire cela, de passer une application anciennement privatrice ou propriétaire, dépend de la terminologie qu'on préfère, mais de la passer en libre avec la bonne licence qui va bien. En plus, il y a des certifications de l'ANSI qui permettent de garantir un peu que les bonnes pratiques de sécurité sont appliquées. Donc, bonne nouvelle, bienvenue dans la grande communauté du libre et on espère que on reparlera d'Olvid dans le futur.
Sujet de la semaine, qu'est-ce que ce sera ? On n'avait que 3 articles dans la revue de presse.
Moi, je te propose de partir sur un sujet hyper joyeux, hyper d'actualité, pour sortir de la crise du Covid.
Et pour bien commencer 2022, on va se faire une petite dose d'angoisse et parler en grande partie de la Russie, mais surtout des menaces de guerre et à quoi ça pourrait ressembler, Internet et l'informatique, en cas de guerre ouverte.
Alors, le premier point dont on avait déjà parlé, on avait déjà abordé le sujet, c'est qu'effectivement, ça fait déjà quelques années, et notamment, je crois que c'est 2021, où la Russie essaye de garantir que son Internet puisse être déconnecté de l'Internet du reste du monde. Et ils ont refait des tests, je crois que c'était en 2021, il me semble bien, en disant « Oui, ça y est, c'est bon, on peut fonctionner sans vous, reste du monde, et notamment sans les États-Unis et l'Europe. »
Ils en ont parlé, et on sait que la Chine également bien verrouillé son Internet avec un contrôle qui permet de s'assurer que les éléments venus de l'extérieur de la Chine sur Internet soient bien filtrés. Tous les GAFAM qui arrivent là-bas ont cédé devant le pouvoir et fait ce que le pouvoir chinois demandait. Donc ils défendent la liberté d'expression dans certains endroits en refusant les lois locales, mais dans d'autres, ils savent tout à fait plier... Je pense que c'est plus les bénéfices que les grands principes qui les animent.
Il me semble que les GAFAM ont accepté aussi en Russie d'héberger les données russes, les applications russes sur place, et de ne pas les exporter aux États-Unis. C'est pas une garantie de grand-chose d'un point de vue de sécurité d'information, mais en tout cas, ça permet de bloquer à un moment donné et de permettre d'accéder, de lancer des directives locales.
Dans le registre des trucs contrôlés sur Internet en Russie, il y a le réseau Tor, donc réseau qui permet l'anonymisation, qui a été bloqué en Russie également. Et ça, c'est tout récent, c'est arrivé il y a peu de temps. Mais on pourrait dire que ce sont des mesures défensives, mais ce qui nous a amené à parler de ce sujet, C'est un article qui a été publié sur desk-russie.eu, dans lequel on trouve des spécialistes de la Russie, et notamment un article écrit par Françoise Thom, T-H-O-M, qui est une universitaire, un spécialiste de la Russie contemporaine et soviétologue. Et voilà, dans les autres auteurs de ce site, il y a pas mal d'universitaires, des journalistes, etc. Ça n'a pas l'air d'être le premier site complotiste venu. Et elle cite un événement qui est arrivé en décembre, le 17 décembre, où le ministère des Affaires étrangères russe a dévoilé deux projets de texte, qui sont des projets de traités à signer entre la Fédération de Russie et les États-Unis et donc l'OTAN. Deux accords qui sont totalement complémentaires et qui sont présentés comme allant l'un avec l'autre, et dont elle dit que ce sont en fait des actes de capitulation, où la Russie dicte ses exigences envers l'OTAN, en lui demandant de faire tout ce qu'elle demande. Le texte est hyper angoissant parce qu'elle dit en gros que selon elle, la Russie et Poutine est dans une démarche « va-t-en-guerre hein, », c'est-à-dire que si on lui dit non, il dit « on nous agresse, donc on va se défendre ». Si on cède, il dit « ce sont des faibles, donc on va les écraser ». Donc je vous invite à lire l'article, mais une des choses en lien avec l'informatique qu'on a vu là-dedans, c'est que dans les menaces qui sont faites si l'OTAN ne cède pas, donc il y a en gros l'engagement de conflit avec des moyens militaires et techniques. Et ce « et technique » était finalement assez évocateur, et on imagine qu'il y a tout ce qui touche l'informatique, les réseaux, en allant jusque dans l'espace. Et voilà, c'est cette question de qu'est-ce qui se passerait si on avait un conflit qui démarrait, et on parle d'un conflit ouvert.
Alors bah moi j'ai une première proposition de choses qu'ils sont déjà en train de faire, c'est un peu ridicule, mais c'est les usines à trolls. Les Russes, ça fait des années qu'ils ont des usines à trolls, des fermes à trolls, où ils ont plein de gens qui travaillent en sous-main pour essayer de déstabiliser, en se basant sur des forums, en lançant des fausses rumeurs, en lançant des théories du complot. Et puis tout simplement en abrutissant un peu le discours intelligent. Ça passe par donc ces fameux trolls, mais ça passe aussi par des relais. Il semblerait qu'il y a pas mal de relais dans les médias et dans les dans l'informatique. Je suis un petit peu différents podcasts d'analystes qui essayent de défendre les points de vue russes. Donc là, par exemple, les deux traités qui ont été proposés en décembre, d'après ces analystes, ce ne sont pas des traités qui demandent la capitulation. Non, au contraire, ils demandent un rééquilibrage. L'OTAN aurait validé qu'il n'y aurait pas d'augmentation de son périmètre géographique après la chute du mur. Or, on a bien vu, il y a eu une grosse augmentation des membres de l'OTAN. Et ça, pour la Russie, c'est une agression, tu vois ?
Oui, alors, pour moi, les fermes à trolls, c'est une arme de temps de paix, ou en tout cas, où on n'est pas dans un conflit déclaré et ouvert. Alors après, il y aura, en temps de guerre, toujours, évidemment, de la désinformation, donc ça aurait sans doute également un rôle à jouer, mais on est bien dans quelque chose qui est utilisé, on a eu plein de preuves, on ne sait pas à quel point ça marche, mais là, on est dans cette idée de qu'est-ce qui se passe si on arrive vraiment dans un conflit ouvert. Et on a pu avoir un petit avant-goût l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, avec un petit coup de soleil.
Oui, c'était SolarWinds, exactement, et donc ça s'appelle une attaque par les fournisseurs. En gros, une entreprise assez conséquente qui travaille avec beaucoup d'administrations américaines, et notamment d'administration de la défense, donc qui fournit des briques logicielles notamment, et donc les Russes ont réussi, de manière un petit peu compliquée, en récupérant des mots de passe, à pénétrer leurs infrastructures, leurs logiciels, et à permettre par ce biais-là d'installer dans les différentes administrations américaines des briques qu'ils contrôlaient. Et grâce à ça, ça leur a permis de rentrer un petit peu partout et de fouiller. On ne connaît pas exactement la mainmise qu'ils ont eue sur tous les systèmes. On ne sait pas ce qu'ils ont eu comme information notamment, ce qu'ils ont pu en exporter. Mais ça a fait une grosse tâche, hein. Les États-Unis n'étaient pas contents. Mais en même temps, c'est compliqué de pointer du doigt. Parce qu'à chaque fois, tout ça, c'est sous les auspices de l'anonymat. Et on cache au maximum d'où viennent les origines. On est obligé de creuser, oui, de remonter la chaîne, très compliqué.
Alors, si on est dans un contexte de conflit ouvert, là, on n'a pas besoin de se cacher. Et on peut utiliser toutes les vulnérabilités ou tous les trucs qu'on aurait réussi à installer discrètement avant, ou les vulnérabilités connues, pour vraiment faire tomber un maximum de services. Et on l'a vu avec SolarWinds dans les administrations américaines. Il y a pas mal d'administrations américaines qui sont tombées. On le voit avec toutes les opérations qui sont destinés à piquer de l'argent à des organisations en cryptant leurs disques pour empêcher tout ça de tourner. Et aujourd'hui, on a, avec les réseaux et l'informatique, énormément de choses qui tournent là-dessus. Donc, à quoi ressemblerait notre vie si nos réseaux téléphoniques tombent, si nos réseaux de financiers pour payer se cassent la gueule, que les cartes bancaires ne marchent plus, si tous les services publics qui sont largement informatisés n'arrivent plus à fonctionner parce que ouvrir un incident, on ne peut plus communiquer. On peut penser, ça n'était absolument pas un sabotage, ils ont fait ça tout seul comme des grands, mais à la façon dont Facebook a réussi à se planter entièrement tout seul avec une seule maladresse, et où tout était lié à ce truc qui a planté, mais on a vu comment ça a complètement bloqué toute leur activité. Alors c'est l'activité purement informatique. Mais imaginons dans nos travails aujourd'hui, si on n'a pas nos outils informatiques, si tout s'arrête, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Et tout ça dans un contexte où il y a potentiellement des manœuvres militaires en même temps, à l'étranger, ou des gens qui font des exactions à l'intérieur du pays, ou des choses comme ça. Et ça devient très très compliqué.
Alors, ils ont fait des tests, en fait, hein, clairement. Il y a, je ne sais plus lequel des pays baltes, mais il y a quelques années, tout leur système bancaire avait été cassé. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ça a duré quelques jours, il me semble. Et de la même manière, en Ukraine, il y a eu des fournisseurs d'électricité qui ont été désactivés informatiquement, à distance. Donc, on peut considérer, imaginer que c'était des tests ou autres. Hein, on n'a pas les finalités exactes. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont eu des problèmes récemment sur leur système énergétique. Les grilles sont pas très fiables, sont pas très solides. Mais elles sont raccordées à Internet, quelle idée, honnêtement. Ce qui veut dire que bah, des petits hackers un petit peu malins, un petit peu mal intentionnés, ils auraient assez facilement, ou en tout cas, ça s'envisage, hein, ils auraient moyen de pénétrer ces systèmes-là. À partir du moment où on est connecté à Internet, c'est qu'il y a une faille possible qui n'attend que d'être exploitée.
Et c'est là où notre méconnaissance de jusqu'où va l'informatique dans la gestion de l'électricité, dans la gestion de l'eau, dans l'organisation du ramassage de nos déchets, de toute la logistique pour remplir les magasins, pour manger, à quel point tous ces services-là sont dépendants de l'informatique et qu'est-ce qui se passe si effectivement tout s'arrête. Moi qui travaille dans les transports publics, on met de l'informatique partout et de plus en plus, les véhicules sont équipés, les gens reçoivent leur mission par de l'informatique. Donc il y a certains modes de transport comme l'aviation ou le train où ils gardent une compétence pour faire tout ça en mode papier parce qu'il faut qu'ils puissent continuer à fonctionner en mode dégradé parce que ce sont des modes de transport lourds, il y a des moyens. Bon, l'aviation particulièrement parce que ça peut être très dangereux, mais il y a plein d'autres domaines, dans le contrôle routier j'imagine, hein, toute la régulation de trafic par exemple, où tout ça ne fonctionne plus. Et en gros, on peut se retrouver dans un monde où énormément de choses se mettent à ne plus marcher, à commencer par des besoins absolument essentiels.
Tu sais, j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps une vague de dons de clés USB. Il y a plein de gens qui ont reçu chez eux des clés USB comme ça, par erreur. Surtout ne pas brancher ce genre de choses sur son ordinateur ou un autre matériel informatique. Oui. C'est clairement une porte d'entrée. Et là, pour le coup, il n'y a même pas besoin d'être connecté à Internet. Ça peut pénétrer un peu partout et faire un malheur.
Effectivement, oui, c'est un bon exemple. Hein. Ça coûte pas cher. Et vu le fait que tout le monde achète maintenant des trucs par Internet, c'est finalement intéressant comme manœuvre pour planter des virus sur des ordinateurs qui sont peu protégés. On va se dire faire péter l'ordinateur de Monsieur Tout-le-Monde, quel est l'intérêt ? Ben en fait, ça peut être également une porte d'entrée ou en tout cas un point qui pourra s'activer. On a en gros comme ça un agent qui est dormant et qu'on pourra réactiver plus tard. Un truc qui concerne plutôt la Chine, parce qu'on parle beaucoup de la Russie, mais imaginons un conflit avec la Chine. Hein. Tout le monde se demande s'ils vont pas se mettre à foncer vers Taïwan. On a énormément de matériel chinois. On se rappelle que les Américains, notamment Trump, ont fait des misères à Huawei en disant qu'ils étaient pas honnêtes. Et eux fournissent énormément d'équipements pour les infrastructures, donc les routeurs, ce genre de choses. Et pour avoir discuté avec quelqu'un qui travaillait chez un fournisseur américain de routeurs, et il me disait qu'eux ne croyaient pas du tout à l'idée d'avoir des routeurs chinois qui soient capables d'espionner, parce que ce sont des machines qui sont très spécialisées et qui n'ont pas la puissance de calcul pour surveiller les millions de données qui passent. En revanche, il disait que le scénario extrêmement probable, c'est ce qu'on appelle le kill switch.
Le bouton tueur.
C'est ça. Donc cette idée que dans ces équipements, il y a un petit truc caché dans le matériel lui-même. Et quand il reçoit un signal spécifique par Internet, il se met en panne et il arrête de fonctionner. Et donc, pareil, si on imagine une puissance comme la Chine, qui prévoit le fait qu'un jour, elle rentrera peut-être en guerre, elle peut dire « Ah bah, je peux arrêter ». Tous les routeurs donc qui vont arrêter tout trafic en disant dans un pays par exemple qui sera un pays ennemi en disant bah voilà j'ai reçu l'ordre de le faire, je me mets en panne et en se débrouillant pour que ça ne redémarre jamais. Et là on touche vraiment l'infrastructure et ça fait vraiment un bordel incroyable de façon durable.
Petit détail, Taïwan, et on est en manque de microprocesseurs en ce moment, Taïwan est fournisseur de microprocesseurs, ça va faire mal si jamais ils attaquent à ça. Bon, on a déjà beaucoup trop discuté de ce scénario catastrophe.
Oui, bah on espère que ça viendra pas pour 2022.
Il y a plein de gens qui disent que non, hein, la Russie a pas d'intérêt à le faire, mais on sait jamais.
Bah après, c'est une des choses qui est dit dans l'article, et je pense que c'est aussi valable pour la Chine, c'est qu'on a, nous, tendance à voir les choses beaucoup de notre point de vue d'occidentaux, très orientés sur le business, le commerce, etc., et que ce n'est pas la représentation du monde de tous les pays et de tous les chefs d'État, et que cette question de la puissance, de la grandeur des nations et des choses comme ça, il y a des gens pour qui ça a du sens, et que même si chez nous, c'est pas le cas, il faut pas croire que le monde entier résonne comme vous.
Bon, bah sur ce, j'espère qu'on sera encore là et qu'on rediscutera de tout cela une autre fois. En tout cas, la semaine prochaine.
Ouais. Salut.